I have a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation, under God, indivisible, liberty and justice for all.
Merci Jean-Roger Billon. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans le cadre L'Amérique et vous, édition de ce vendredi 20 septembre 2024. Vous êtes sur VO Afrique. Nous émettons depuis Washington DC, ici même aux États-Unis. Et ce soir, c'est une émission centrée sur la sécurité des présidents américains et dans le contexte de la course à la Maison-Blanche. Nous nous attarderons aussi sur les candidats en lice pour la présidentielle du 5 novembre 2024. Et surtout après deux tentatives d'assassinat en moins de deux mois de l'ancien président et candidat républicain Donald Trump. Après la tentative d'assassinat contre Donald Trump déjà visée par des tirs en juillet, le Secret Service chargé de la protection de hautes personnalités politiques américaines se retrouve de nouveau au centre des interrogations. Le 13 juillet, l'ex-président et candidat républicain à la Maison-Blanche en meeting à Butler, en Pennsylvanie dans le Nord-Est, échappe de peu aux balles d'un tireur. 10 jours après, la directrice du Secret Service, Kimberly Schindler, démissionne après avoir assumé la responsabilité dans ce qu'elle appelle le plus important échec opérationnel de son agence depuis des décennies. Au moins 5 de ses agents sont placés en congé d'office, mais ni ces mesures disciplinaires, ni les enquêtes à la fois internes et indépendantes engagées pour tirer les leçons du fiasco ne désarment les critiques, notamment sur le fait que le bâtiment où le tireur avait pris position se trouvait dans le périmètre extérieur du meeting, sous la responsabilité de la police locale et non du Secret Service. Donald Trump a salué l'action du Secret Service dimanche sur son terrain de golf de Palm Beach en Floride, où selon les précisions lundi de son directeur par intérim, Ronald Roy, le suspect a été repéré et visé par un agent avant même d'être en position de tirer sur l'ex-président. Mais ses alliés républicains déplorent le fait que son dispositif de sécurité n'ait pas été élevé au même niveau que celui d'un président en exercice, toute chose qui a été modifiée. Et d'ailleurs, ce soir au Congrès, on discutait encore du Secret Service. Pour discuter de tout cela dans ce studio, nous avons comme invité ce soir par téléphone donc Jean-Germain Gros de l'Université de Saint-Louis dans le Missouri. Jean-Germain Gros, bonsoir.
Bonsoir, Monsieur Landon.
Merci de vous avoir parmi nous. Ici à Washington, D.C., Calvin Dark est avec nous. Vous êtes analyste politique et cofondateur de RC Communication. Calvin Dark, bonsoir.
Bonsoir.
Soyez les bienvenus dans l'Amérique et vous. À New York, nous aurons l'historien et analyste politique Mohamed Mbodj, professeur d'histoire à Manhattanville College. Mohamed Mbodj, bonsoir.
Bonsoir.
Ravi de vous avoir parmi nous. Merci à tous les invités. Calvin Dark, je commence par vous. Deux tentatives d'assassinat contre Donald Trump en moins de deux mois. Comment expliquer cela? Et peut-être on pourrait commencer par l'actualité au Congrès sur le Secret Service.
Oui, je crois que il y a deux gros problèmes. Le premier, c'est les armes à feu. Il y a beaucoup de discussions dans ce pays, le niveau de protection pour les candidats, les présidents, et ça, c'est vraiment une conversation nécessaire. Mais en réalité, sans les armes à feu au niveau qu'il existe ici aux États-Unis, même les gens avec des problèmes psychologiques ne peuvent pas faire ce que les deux hommes ont tenté de faire contre Donald Trump. Mais pour la politique, on a vu aujourd'hui la Chambre des représentants, ils ont approuvé le projet de loi pour en fait mettre le niveau de protection mis au même niveau pour le président, les candidats majeurs à la présidence. Ça, c'est une bonne signe. Il n'y avait pas d'opposition, mais c'est plutôt symbolique parce qu'il n'y a pas de fonds pour améliorer. C'est juste pour que ça soit dans la loi, que le même niveau, et ça, c'est la loi maintenant. Et je crois que ça envoie un bon signe aussi que les républicains et les démocrates veulent savoir qu'est-ce qui s'est passé à Butler, Pennsylvania surtout, quelles sont les faiblesses pour le Secret Service pour que ça ne produisent pas pour l'avenir pour Donald Trump ou des autres candidats ou le président actuel.
Alors, pour compléter votre information, donc, la Chambre des représentants a adopté ce vendredi une loi visant à renforcer la sécurité des candidats à la présidence à la suite, on le disait, de deux tentatives d'assassinat contre l'ancien président Donald Trump. La Chambre a voté 400 voix contre 405 voix pour et zéro contre sur le projet de loi qui exige désormais que le directeur du Secret Service applique les mêmes normes pour déterminer le nombre d'agents qui protègent le président, le vice-président et les candidats des principaux partis à la présidence et à la vice-présidence. Mohamed Bodj, Donald Trump, on le disait, a salué le travail du Secret Service après l'incident de Palm Beach. Pour autant, les services secrets américains restent critiqués. Et qu'est-ce qui justifie ces critiques, à votre avis?
D'une part, il y a bien entendu un côté politique assez net, donc des points à marquer. Et ce point à marquer vient sur ce qu'on peut appeler... les républicains insistent sur le fait qu'il y a une insécurité dans ce pays. La sécurité n'est pas très bien assurée. Et que donc, il y a là, effectivement, quelque chose qu'il faudrait voir. D'une certaine façon. La deuxième chose, ça permet aussi d'éviter un débat sur l'arme à feu, la circulation d'armes à feu très sophistiquées, d'armes de guerre d'ailleurs, on peut les appeler comme ça, en insistant sur ce qu'on peut appeler les défaillances des services de sécurité. Et troisièmement, ça permet aussi de repousser des accusations de violence politique qui ont été levées contre essentiellement d'ailleurs le Parti républicain depuis les événements du 6 janvier 2021. Donc on est un peu dans ce cadre-là où effectivement cette tentative d'assassinat peuvent aider un tout petit peu dans ce sens-là le Parti républicain plus que peut-être le Parti démocrate dans ce contexte.
Alors, vous parlez d'insécurité, d'accord. On parle beaucoup aussi, Jean-Germain Gros, des tensions autour de cette campagne électorale pour la présidentielle. J'ai envie de dire que c'est souvent le cas, mais est-ce que les choses ne s'aggravent pas quand les camps des deux candidats s'accusent d'utiliser un langage incendiaire? Vous êtes d'origine haïtienne. Comment réagissez-vous, par exemple, aux déclarations controversées de Donald Trump concernant ces Haïtiens?
Bon, je crois que il faut éviter toute, disons, comparaison entre le langage utilisé par les démocrates et celui utilisé par Donald Trump. Le langage de Donald Trump est beaucoup plus strident. Donc, il ne faut pas établir une équivalence morale qui est absolument fausse. Hein? Les démocrates n'ont pas accusé, disons, ceux qui supportent les républicains de manger les chiens et les chats. Toute cette forme de violence rhétorique vient pratiquement d'un seul camp, du camp de Donald Trump. Donc il faut éviter, encore une fois, d'établir une sorte d'équivalence morale fausse. Je ne dis pas cela pour justifier les attentats contre Donald Trump. Pas du tout. Il n'y a aucune place pour la violence dans une société civilisée. Mais par contre, on doit toujours ménager son langage. quand on est une personnalité politique, surtout une personnalité politique qui essaie de graver la magistrature suprême d'une nation puissante comme les États-Unis.
Calvin Dark, parlons justement des chiens, des chats et des animaux qu'on mange, qu'on mangerait hein, à Springfield, selon Donald Trump et ses équipes. Est-ce que pour vous, c'est une stratégie pour reprendre la main hein, de la popularité, ou alors c'est juste une distraction, une de plus?
Oui, en fait, c'est les deux. Parce que Trump, il se rend compte que c'est impossible d'obtenir plus de 45% de la population. Ça, c'est impossible. Il va gagner s'il peut motiver sa base de soutien pour que leur taux de participation aux élections soit le maximum. Alors, il sait que ce propos... ça encourage malheureusement les racistes dans sa base, mais aussi si on parle de ses propos racistes autour de Springfield, Ohio, on ne parle pas de le débat qu'il a perdu, ou peut-être les discours de Kamala Harris et la popularité de Kamala Harris. Alors, il veut être au centre des infos, même si c'est pour des raisons négatives. Et je crois aussi, je crois maintenant que Trump, au fond, il est irresponsable. Parce que après le premier attentat, je sais que les démocrates et les républicains, on ne veut pas ça aux États-Unis. On veut pour les démocrates de défaite de Donald Trump par scrutin, pas pour la violence. Et j'ai cru qu'après qu'il était le victime, il allait changer peut-être, surtout le langage, le propos incendiaire. Et voir ce mois, avant le deuxième attentat, il se moquait de Paul Pelosi, le mari de l'ancien président de la Chambre, Nancy Pelosi, pour l'attaque qu'il a subie il y a un an. Alors, il n'a pas appris des leçons. Je crois qu'il est victime et aussi, de meilleure part, responsable pour ce qu'on voit maintenant avec la violence politique et le propos incendiaire.
Oui, mais Mohamed Bouj, est-ce que finalement Trump n'est pas Trump? Trump n'est-il pas resté Trump? Parce que ses propos sur les Haïtiens, il en a eu d'autres, hein, sur les Africains, il en a eu sur les musulmans. Et il en a eu, je ne sais sur qui encore. Est-ce qu'il n'est pas vraiment lui-même, il n'est pas constant dans sa stratégie ou dans son être ou dans sa façon de faire la politique?
Il est très constant. Il est très constant dans ses pratiques. Mais en même temps aussi, on peut dire que ce sont vraiment ses opinions. Il ne faut pas oublier que même lorsqu'il n'était pas candidat, c'est lui qui est appelé à une exécution de jeunes gens qui étaient soupçonnés d'avoir commis une agression à Central Park. Il ne s'est jamais excusé et ces jeunes il a été prouvé qu'ils n'y étaient pour rien, qu'ils étaient innocents. Et néanmoins, Donald Trump n'a jamais exprimé un regret ou une excuse par rapport à ça. Donc on l'a vu aussi à New York, lorsque sous Ed Koch, de temps en temps, il passait à la radio pour dire que si Ed Koch pouvait rafler tous ces vendeurs immigrés illégaux, lui, il s'engage à leur payer le billet d'avion retour en Afrique. Donc là, il y a une constance qui date de bien avant sa candidature. Donc là, c'est bien, c'est plus dans sa nature, mais il y a effectivement une partie de l'électorat américain qui est très réceptive pour ce genre de choses. D'une part, il y a cette sorte d'idée qu'il y a une sorte d'efficacité où on peut régler des problèmes rapidement d'un coup de plume ou d'une balle de fusil. Deuxièmement, il y a cette attitude qui vise à à dire qu'il y a une invasion des non-européens qui risque de détruire la civilisation américaine, qui donc a le droit de se défendre avec toutes les armes possibles, que ces armes soient orales ou physiques ou autres. Donc il y a dans cette atmosphère, Donald Trump ne fait qu'être Donald Trump citoyen et Donald Trump candidat.
Alors, Jean-Germain Gros, est-ce que finalement, reparlons de sécurité, hein, est-ce que cette menace sécuritaire qui pèse sur les candidats à la présidentielle, aussi bien Donald Trump que Kamala Harris, ne va pas jeter un coup de froid sur la campagne et compliquer même le travail du service secret finalement?
Oui, bien sûr, parce que maintenant on va devoir porter plus d'attention sur la sécurité des deux candidats, car imaginez-vous juste après, disons, ce qui s'est passé, je crois, dimanche dernier, Elon Musk s'est demandé pourquoi on n'a pas essayé d'assassiner
Kamala Biden Harris.
Et Kamala Harris.
Tout à fait.
Donc là, on peut voir ça comme une sorte d'incitation à la violence. Donc, il faut que les services secrets réagissent, c'est-à-dire consolider leur protection aux candidats principaux pour qu'une telle possibilité ne se produise pas. Alors, imaginez-vous, ce serait vraiment une catastrophe extraordinaire si on arrivait à porter atteinte une nouvelle fois à la vie de l'un des deux candidats. Donc les services secrets doivent renforcer encore plus la sécurité des deux candidats pour éviter une catastrophe extraordinaire.
Tout à fait.
Dans les 45 prochains jours.
Et Elon Musk, qui est un fervent supporter de Donald Trump et qui, soulignons-le, avait effacé ce tweet-là par la suite. Mais je me demande si c'était un citoyen lambda qui avait fait ce tweet, ce qu'il serait devenu. Calvin Dark, au-delà de la politique, Joe Biden et Kamala Harris, adversaires de Trump, ont tous deux condamné les attaques contre Trump et martelé que la violence n'avait pas de place dans cette campagne. Comment vous jugez cette attitude de Biden et Harris?
Je crois que c'est normal. Et aussi, c'est l'exemple. L'exemple que je cite, j'espère que c'est évident pour tous les électeurs, pas parce que à cause des élections, mais pour la démocratie américaine. Après un débat dur entre Kamala Harris et Donald Trump, elle a appelé Donald Trump pour voir si tout va bien. Joe Biden a fait la même chose. Et même Trump, il a reconnu que c'était une bonne conversation. Et après, il a commencé de critiquer Biden et Harris. Et Harris a critiqué Donald Trump après. Mais j'espère que ça peut être le modèle, l'exemple, qu'il y a des différents politiques sévères. Et on peut avoir ces discussions, des débats, à être contre un autre parti au niveau politique, mais à la fin, on est américain, on est humain, et il ne faut pas que la violence ait une place dans cette discussion. J'ai peur que si c'était l'envers, je ne sais pas si Donald Trump ferait la même chose, et ça, c'est triste.
En tout cas, Dieu merci, jusqu'ici, rien de grave n'est arrivé aux deux candidats. Mohamed Bouch, ce n'est pas la première fois qu'on parle des tentatives d'assassinat aux États-Unis. L'historien que vous êtes, peut-il nous rappeler quelques souvenirs à cet effet?
Malheureusement, je ne suis pas aussi optimiste que mon prédécesseur. Il y a bien une tradition de violence politique américaine, et cette violence politique semble souvent être dirigée vers le sommet et en tout cas vers les élus d'une manière générale, plutôt que d'ailleurs ce qu'on peut appeler les sous-fifres. Et c'est une tradition qui date, c'est un phénomène qui date depuis 1815. Donc où on a assassiné, je me souviens plus si c'était un juge élu ou un sénateur ou un gouverneur. En 1835, on a essayé d'assassiner Jackson, le président Jackson, et il n'y a aucun président contre lequel il n'y ait pas eu de tentative d'assassinat pour l'instant. Si on regarde toute cette liste, Donc, sauf peut-être Biden, je ne suis pas très sûr, je n'ai pas encore vérifié. Et encore que je doute qu'il n'ait pas été l'objet de tentatives. Parce que souvent aussi, les services secrets ne disent pas tout. Parce qu'ils ne veulent pas créer des émules, ils ne veulent pas créer des gens qui vont imiter ou qui vont avoir une idée. Si quelqu'un a essayé et n'a pas réussi, peut-être que moi je vais essayer et peut-être réussir. Il y a aussi même les tentatives d'assassinat lors de voyages à l'étranger, que souvent aussi qui sont un peu cachées. Donc je pense qu'il y a cette violence politique est là. Mmh. Et depuis le début donc du recensement, donc de ces assassinats politiques, il y a quelque chose comme 87, entre 87 et 90 élus de tous bords et de tous niveaux qui ont été assassinés dans l'exercice de leurs fonctions aux États-Unis. Donc c'est un chiffre énorme, et maintenant que nous avons cette toile qui avec Internet et tous ces réseaux sociaux, je ne serais pas étonné que quelqu'un soit actuellement maintenant dans le sous-sol de sa maison en train de ruminer et de s'équiper pour une aventure pareille.
Alors, on va dire un petit mot sur le service secret, rappelant qu'il assure la protection à vie des présidents et vice-présidents en exercice après leur mandat, ou les principaux candidats à ces fonctions, leurs familles et les enfants des ex-présidents jusqu'à l'âge de 16 ans. Le Secret Service compte quelque 3200 agents spéciaux connus dans le monde entier pour leurs lunettes noires, leurs oreillettes et leurs costumes sombres, 1300 personnels en uniforme ainsi que plus de 2000 fonctionnaires techniques ou administratifs. Créé à l'origine pour lutter contre la fausse monnaie, il a été chargé à la suite de l'assassinat du président William McKinley en 1901 de la protection du président, du vice-président et de leurs familles aux États-Unis comme à l'étranger. Conformément à sa vocation première, il protège donc, on le disait, le système financier et monétaire américain face aux fraudes financières et électroniques, à la contrefaçon de monnaie ou de cartes bancaires. Dépendant du département du Trésor depuis sa création en 1865, le Secret Service est passé en 2003 sous la responsabilité du ministère de la Sécurité intérieure. Jean-Germain Gros, cette élection, puisque nous y sommes, s'annonce très serrée au vu des sondages actuels. Qu'est-ce qui va déterminer l'issue du scrutin, selon vous?
Bon, c'est très difficile à prognostiquer. Mais je pense que c'est ce qui va déterminer, disons, ces élections, c'est le message des candidats. Il y a une candidate qui a un message positif, et il y a un autre qui pratiquement essaie de concocter la peur chez les électeurs américains. Donc, tout dépend de la façon dont les électeurs américains reçoivent ces messages. Veulent-ils un message positif ou bien veulent-ils être animés par la peur?
Voilà.
Je crois que c'est là où nous sommes.
On tire à la fin de cette émission, Calvin Dart, si vous le pouvez. Quels sont pour vous les thèmes que chacun des candidats devrait mettre en avant pour capter le maximum d'électeurs au cours des semaines qui restent? On a beaucoup parlé de l'économie, de l'immigration ou de l'avortement, par exemple.
Oui, je crois que le projet devant Kamala Harris, c'est de se présenter encore et encore pour les Américains qui ne connaissent pas vraiment qui est Kamala Harris, et construire la confiance qu'elle puisse être la présidente, surtout pour l'économie et l'immigration. Mmh. Et je crois que si Donald Trump peut éviter toutes les controverses, et je crois que ça c'est impossible, ça peut être un avantage pour lui.
D'accord. Mohamed Bodge, cette élection sera spéciale, quel que soit le gagnant ou la gagnante. Si Kamala Harris l'emporte, ce sera la première femme, la première noire et indienne d'origine. Et si c'est Trump, ce sera un comeback remarquable après tout ce qu'il a connu comme ennui judiciaire et sécuritaire. Un mot là-dessus.
Oui, je pense que Kamala va compter sur la jeunesse, les femmes, les minorités, et l'impopularité et les blancs, disons, éduqués. Et de l'autre côté, Trump va compter sur sa base, principalement les blancs, les hommes blancs, voilà. D'une manière générale, pour pour caricaturer, mais la jeunesse, je crois, et les minorités dont le nombre augmente alors que le nombre des hommes voilà. diminue, je crois, va faire la différence.
Et c'est avec ces mots qu'on met fin à cette émission de l'Amérique et vous, présentée par John Lyndon, production Georges Léonard Sagno. Merci à tous nos invités pour leur disponibilité et à vous pour avoir suivi. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com où vous pourrez réécouter cette émission ou vous informer sur l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.